Nous continuons ce jour donc avec le livre des psaumes. Nous avions vu précédemment de quoi était composé ce livre des psaumes qui est par excellence la prière de l'Église. Et aujourd'hui, je vais en venir au premier des psaumes qui peut à bon droit être appelé le psaume des deux voix. Alors, je vais d'abord en donner la lecture. C'est un psaume qui est très court, il a 6 versets. Bienheureux l'homme qui ne s'en est pas allé au conseil des impies, qui ne s'est pas arrêté dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis parmi ceux qui propagent le mal, mais qui se complaît dans la loi du Seigneur et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme l'arbre planté près des eaux courantes qui donne son fruit en son temps et dont jamais le feuillage ne tombe. Tout ce qu'il fait réussira. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Mais ils seront comme la poussière que le vent emporte de la surface de la terre. C'est pourquoi les impies ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car le Seigneur connaît la voie des justes, et la voie des impies va à la perdition. Les premiers mots, donc, du premier verset sont « Bienheureux l'homme » et la suite « Qui ne s'en est pas allé au conseil des impies, qui ne s'est pas arrêté dans la voie des pécheurs et qui ne s'est pas assis parmi ceux qui propagent le mal. » Et le verset 2, je le rappelle, « Mais qui se complaît dans la loi du Seigneur et médite sa loi jour et nuit. » Le texte hébreu commence par « Ashré Aish » et le texte grec « Makarios Aner ». Alors, qui sont les impies dont parle ce premier verset? Ce sont les ennemis de la foi. Ce sont ceux qui tournent en dérision, ceux qui sont tournés, orientés vers Dieu. Ce sont ceux qui transgressent les commandements de Dieu, qui pratiquent toutes sortes d'idolâtries. Voire même des cultes païens qui environnent Israël. Ce thème des impies, on le retrouve plusieurs fois dans l'Écriture. Le psaume 25, par exemple, le reprend au verset 4 et 6, je cite « Je n'ai pas été m'asseoir dans une assemblée de vanité. Je n'ai pas fréquenté ceux qui transgressent ta loi. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne siégerai pas avec les impies, mais je me laverai les mains parmi les innocents. » Vous voyez, il y a une grande proximité entre ce verset et le premier verset de notre psaume, y compris dans son vocabulaire. Donc, ennemi de la foi, moqueur, transgresseur, voilà les caractéristiques des impies, propagateur du mal également, voilà leurs caractéristiques. On notera tout de suite donc que les verbes « aller », « s'arrêter », « s'asseoir », bon, pour le deuxième, il s'agit de ne pas s'arrêter, justement, ici. Eh bien, Ces trois verbes décrivent trois attitudes de l'homme. Trois attitudes qui sont propres à l'homme. Autrement dit, c'est sûrement une manière pour le psalmiste de nous dire que l'enjeu, c'est toute l'existence humaine. C'est toute l'existence humaine qui est concernée. Par la description de ce premier verset. Le deuxième, donc celui qui se complaît dans la loi du Seigneur, qui médite sa loi jour et nuit, c'est celui qui aime la loi du Seigneur, celui qui trouve sa joie dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Méditer la loi du Seigneur jour et nuit. Il y a là, je pense, l'idée de menducation de cette loi qui devient une nourriture de vie. Il y a là aussi, on pourrait employer le verbe ruminer. On rumine la loi en quelque sorte. De sorte que c'est une nourriture qui pénètre au fond de l'âme et qui fait que celui qui s'adonne à cette méditation de la loi du Seigneur se tient toujours en présence de son Dieu. Donc vous aurez remarqué que il y a là déjà une première antithèse. Celui qui aime la loi du Seigneur, qui la médite jour et nuit, eh bien, il est le contraire de l'impie, du pécheur, du railleur, du méchant, autant de termes que l'on trouve dans différentes traductions. Alors, dès les deux premiers versets, nous sommes en présence de trois personnages plus directement. Il y a le Seigneur, bien sûr, il y a le juste, l'homme bienheureux, et il y a l'impie. L'impie, le pécheur. Trois personnages, donc, dans notre psaume. Nous savons que, traditionnellement, quand on parle de méditation, c'est quelque chose qui se fait à voix basse, presque intérieurement. Et mention de la méditation, c'est aussi la mention de l'intimité qui s'établit entre la parole qui entre dans le cœur de celui qui médite. Et là, ça n'a rien à voir avec des méditations extrêmes orientales centrées sur soi. Donc, relation intime qui s'établit entre la parole qui entre dans le cœur de celui qui médite. C'est pourquoi, en vertu de cette relation, cette méditation est un acte intime de celui qui s'y livre devant son Dieu. C'est, pour donner un exemple, ce que dit le livre de Josué à ce propos. Je cite Josué 1:8. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussira. Là aussi, on ne peut s'empêcher de remarquer la parenté avec le vocabulaire même de notre psaume. Le verset tiré du livre de Josué, d'ailleurs, fait lui-même écho au verset du Deutéronome. Dans le 17e chapitre, les versets 18 à 19, versets qui concernent le roi, je cite là encore, « Lorsqu'il montera sur le trône royal, il devra écrire sur un rouleau, pour son usage, une copie de cette loi sous la dictée des prêtres lévites. Elle ne le quittera pas, il la lira tous les jours de sa vie pour apprendre à craindre le Seigneur son Dieu en gardant toutes les paroles de cette loi ainsi que ses règles pour les mettre en pratique. » Le troisième verset compare le juste à un arbre planté, et même solidement planté. Il sera, je cite, « comme l'arbre planté près des eaux courantes, qui donne son fruit en son temps, et dont jamais le feuillage ne tombe. Tout ce qu'il fait réussira. » Là, il y a l'idée, de stabilité, de solidité, de stabilité du juste, comparé à un arbre planté près des eaux courantes et qui donne son fruit en son temps, dont le feuillage ne tombe jamais et qui est ce qui est le gage de tout ce qu'il de réussite de tout ce qu'il entreprend. Alors, on a la thématique de l'arbre, de l'eau, du cours d'eau, autant d'images bibliques à forte charge symbolique, nous le savons, puisque nous en trouvons de très nombreux exemples dans l'Écriture sainte. Par exemple, le psaume 91 utilise l'image de l'arbre et le compare au juste. Le juste fleurira comme le palmier, il se multipliera comme le cèdre du Liban. 91-13. Autre exemple dans le psautier, au psaume 51. Et moi, je suis comme un olivier chargé de fruits dans la maison du Seigneur. J'ai mis mon espérance dans la miséricorde de Dieu, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. On retrouve la force de cette comparaison chez les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Comparaison donc entre le juste et l'arbre. Je cite Jérémie au chapitre 17, les versets 7 à 8. « Béni l'homme qui se confie au Seigneur et dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien qui arrive, il ne redoute rien quand arrive la chaleur, son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. » Donc là encore, l'image de la stabilité du juste devant le Seigneur qui médite la loi, sa loi jour et nuit. Et Ézéchiel, dans le chapitre sur la source du temple, dit « Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ézéchiel 47, 12. Je reviendrai plus loin sur ce récit dans Ézéchiel sur la source du temple. Alors, le juste n'est-il pas ici comparé à un arbre paradisiaque? Celui qui est décrit dans la Genèse, qui justement est, ou plus exactement sont, parce qu'il y a plusieurs arbres, bien arrosés par le fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. C'est en Genèse 2, 10. Et dans le livre d'Osée, voyez-vous, le cyprès verdoyant symbolise la vie dont la source est le Seigneur lui-même. Et je terminerai ce point avec le visionnaire de Patmos, Saint Jean le théologien, au chapitre 22 de l'Apocalypse, qui nous dit dans les versets 1 à 2 « Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme le cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. » Arbre paradisiaque, donc arbre des temps messianiques. Car si l'on veut bien lire avec attention le chapitre 47 d'Ézéchiel, sur la source qui jaillira du côté droit du temple, en rapprochant le texte d'Apocalypse de Saint Jean déjà cité, au temps messianique, au bord de ce cours d'eau, poussent toutes sortes d'arbres dont le feuillage ne flétrira point. Alors, il y a des éléments très importants dans ce 47e chapitre d'Ézéchiel. Je vais donner lecture d'une partie, parce qu'il nous suggère beaucoup de choses. C'est dans la vision d'Ézéchiel. Hein, donc, il me ramena à l'entrée du temple, et c'est Dieu qui ramène Ézéchiel à l'entrée du temple. Et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. Ça nous dit quelque chose. L'homme s'éloigna vers l'Orient avec le cordeau qu'il avait en main et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduisit, puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau s'en va vers le district oriental, elle descend vers la Araba et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui fourmille vivra. » Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. Donc, cet extrait du 47e chapitre de la prophétie d'Ézéchiel les versets 1 à 9, et on pourrait bien sûr poursuivre, mais la suite n'est pas directement liée à notre sujet. Mais ça nous dit quelque chose, cette eau qui sort du côté droit du temple. Car de même le Christ, le Messie, le temple non fait de main d'homme, a eu le côté droit percé, d'où a jailli du sang et de l'eau. Source vivifiante qui irrigue le grand corps de l'Église pour tous les siècles. Nous en avons le témoignage dans Saint Jean au 19e chapitre, des versets 34 à 35. L'un des soldats de sa lance lui transperça le côté, et aussitôt il en jaillit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est véridique. C'est ce que rapporte Saint Jean qui en est le témoin oculaire, je rappelle. Et je rappelle également que le prêtre, lors de l'office de la proscomédie, qui précède l'ouverture de la divine liturgie, redit ces paroles précisément en donnant un coup de lance au côté droit de l'agneau. Venons-en maintenant au quatrième verset. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Mais ils seront comme la poussière que le vent emporte de la surface de la terre. Donc ce quatrième verset, toujours dans ce jeu d'antithèse hein, qui parcourt les six versets de ce psaume, nous dit que l'impie, il est promis au néant. Il n'en restera absolument rien. Semblablement à la poussière dispersée par le vent. Et il est comparé à la poussière parce qu'il est promis à la corruption, à la mort. Ses œuvres sont vanité et son seul horizon véritable, eh bien, c'est la mort. Il ne restera rien de lui. Dans la prière des défunts, dans l'office orthodoxe de la prière des défunts, il est dit « Il n'est point d'homme qui vive et ne pêche pas. » Et s'adressant au Christ, il est ajouté « Toi seul et sans péché. » Donc il faut faire une distinction, je pense, entre le pécheur et l'impie. L'impiété porte la marque des plus grands péchés et celle de l'endurcissement du cœur. Le pécheur, parce que tout homme vivant est pécheur, peut toujours, parce que Dieu est amour et qu'il cherche, qu'il attend l'homme pour le relever, lorsque l'homme est tombé, il ne l'a pas laissé à son triste sort, eh bien ce pécheur peut toujours se retourner vers Dieu, qui est le Père miséricordieux, qui attend le retour du Fils prodigue et qui se réjouit du retour de ce Fils qui était perdu, comme le dit la parabole évangélique. Car tout péché, hormis le péché contre le Saint-Esprit, peut être pardonné. Le péché qui n'est pas pardonné, c'est précisément celui dont on ne se repent pas, nous dit Saint Isaac, le Syrien. Mais l'impie, le railleur, le moqueur, autre, le méchant, autre qualificatif de l'impie, celui qui tourne les commandements du Seigneur en dérision, lui, il a en lui les plus grands péchés et il a le cœur endurci, il a le cœur scellé. Il est en quelque sorte endurci dans sa mort spirituelle. Et quand il entend la parole de vie, loin que cette audition le rappelle à la vie, au contraire, augmente son endurcissement. Nous en avons une image saisissante dans l'Écriture avec la figure de Pharaon qui a le cœur endurci et qui justement enrage d'entendre la parole divine. Son cœur s'endurcit d'autant. Et comme le dit l'évangile de saint Matthieu, qu'elle est large la voie qui conduit à la perdition et à la mort, et qu'il en est beaucoup qui entrent par cette porte. C'est en Matthieu 7, 13. Nous savons tous qu'à partir du moment où nous donnons consentement au péché, qui, dans un premier temps, s'était fait suggestion, qui n'était pas encore péché, qui est suggestion de l'extérieur qui nous vient. Bien sûr, nous avons cinq sens par lesquels nous appréhendons le monde, et par ces sens nous viennent des suggestions. Et là, ce n'est pas encore péché, mais il y a tout un processus qui va nous conduire à parler avec ce péché, à pactiser avec lui, et finalement à y consentir. Donc, ce consentement, même quand il n'est pas encore passé à l'acte, eh bien, il est véritablement péché. Et à plus forte raison, bien sûr, quand il est passé à l'acte et quand il devient en nous une habitude. Reportez-vous pour mémoire à ce que Évagre le Pontique nous dit à ce propos sur la façon dont le péché entre en nous et comment nous y consentons, comment ce péché devient une habitude en nous, et comment nous persévérons en quelque sorte dans ce péché, dans le mal. Et à ce moment-là, précisément pour se rapporter à ce que nous dit le psaume, nous nous asseyons parmi ceux qui propagent le mal, parce que le mal est en nous, et nous pactisons avec les propagateurs du mal. Le saint apôtre Paul, à propos de l'impiété et de ses justifications doctrinales, parce qu'elle cherche toujours à en avoir, mettait en garde justement son disciple Timothée en ces termes. C'est dans la deuxième épître à Timothée, au deuxième chapitre, verset 16. « Quant aux discours creux et impies, évite-les. Leurs auteurs feront toujours plus de progrès dans la voie de l'impiété et leur parole étendra ses ravages comme la gangrène. » Il y a une idée très profonde qui parcourt toute la tradition chrétienne, c'est l'idée qu'il faut éviter le contact avec l'impiété et par conséquent avec les impies, parce que ce contact entraîne de mauvaises choses, parce que nous ne sommes pas taillés pour combattre face à face avec Satan et ses hypostases mineures. Et donc, il nous faut donc fuir et nous réfugier dans le Christ, toutes les fois que nous sommes tentés, toutes les fois que nous guette le fait de pactiser avec le péché. C'est donc un très sage conseil spirituel que le saint apôtre Paul donne à son disciple Timothée. Parce que les paroles de l'impiété peuvent très facilement, vraiment très facilement se glisser dans notre âme, faute de vigilance, justement. Et la vigilance de l'âme, elle s'exerce dans le secours du Seigneur, chaque fois que nous sommes tentés, chaque fois que nous pouvons succomber au péché, il faut appeler le Seigneur au secours. Invoquer son nom, car l'invocation du nom du Christ fait fuir Satan, nous dit saint Jean Climaque. Plusieurs voies donc, ou plusieurs degrés si vous préférez, conduisent à l'impiété. Mène assiégé au conseil des impies. Il y a d'abord la tiédeur de l'âme. La tiédeur de l'âme. À ce sujet, d'ailleurs, l'Apocalypse dit que Dieu vomira les tièdes. La tiédeur de l'âme, son inconsistance, sa légèreté, son indifférence, son absence de prière, son relativisme quant à la vérité. Tout cela porte les marques de la tiédeur de l'âme. Il y a ensuite le cœur qui est encombré des passions. Cœur encombré des passions. Passions que l'homme entretient, comme des idoles avec lesquelles il pactise et auxquelles il rend un culte intérieur. Il y a aussi l'incrédulité dans cet ordre d'idées. Enfin, il y a le parti pris délibéré pour le mal, qui est évidemment quelque chose de gravissime. Parti pris délibéré pour le mal, pour sa propagation. Engagement à le faire triompher, et évidemment à le faire triompher toujours par des moyens ténébreux et secrets, car le mal a la haine de la lumière. Vous savez, le mal, le péché, haïssent la lumière. Hein? Et justement, quand nous confessons nos péchés, nous les faisons monter à la lumière, et de ce fait, nous en supprimons la puissance maléfique, ou au moins, nous la réduisons fortement, parce que dans cet acte, nous brisons le mur de séparation entre nous et le Christ. Cinquième verset, c'est pourquoi les impies ne se lèveront pas au jugement, ni les justes, pardon, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Par contraste donc avec la fécondité du juste, avec le bonheur du juste, nous sommes ici mis en présence de la vanité, de la stérilité des impies et des pécheurs. Alors, il est fait question du jour, du jugement. Ce jugement, hein, c'est le jour du jugement, où tous ceux qui auront été infidèles au commandement du Seigneur et qui ne seront pas entrés dans la repentance ne seront pas trouvés justes au jour de Dieu. C'est ce qu'un Targoum appelle le grand jour, ce jour du jugement. Nous sommes là toujours, hein, dans l'antithèse, qui est le fil qui relie tous les versets, les six versets du premier psaume, dans l'antithèse entre le juste et l'impie. autrement dit entre la voie de la vie et la voie de la mort. Le juste qui est assimilé à un arbre solidement planté, qui produit de beaux fruits en son temps, dont le feuillage ne se flétrit jamais, et l'impie qui n'est que poussière, et rend infécond tout ce qu'elle recouvre, cette poussière. Et il est dit chez le prophète Malachie, au troisième chapitre, verset 21, « Et vous foulerez les impies, lorsqu'ils seront comme de la cendre sous vos pieds, au jour que je prépare, dit le Seigneur Sabaoth. » Et pendant ce grand jour, celui du jugement, Malachie ajoute, toujours dans le même chapitre, au verset 19, « Car voici, le jour vient, brûlant comme un four. Ils seront de la paille, tous les arrogants et malfaisants. Le jour qui arrivera les embrasera, dit le Seigneur Sabaoth, au point qu'il ne leur laissera ni racine, ni rameau. » Alors, sur ce verset 5 du premier psaume, c'est pourquoi les impies ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Nous disposons d'un grand nombre de commentaires des pères, puisque ce jugement est lié à la résurrection générale. Le verbe « lever » ou « relever » est un verbe de résurrection dans ce contexte, comme il l'est d'ailleurs dans de très nombreux récits où il est employé pour la guérison par le Christ, différentes guérisons de boiteux, de paralytiques, d'aveugles, etc., de muets, de sourds, autant de signes de l'humanité malade que le Seigneur vient guérir. Et cette guérison s'accompagne de relèvement, donc de résurrection, car c'est guérison que le Christ accomplis sont des retours à la vie, donc des résurrections. Et la résurrection, dans cette perspective, faut-il le rappeler, c'est important pour nous, pour notre vie chrétienne, eh bien ce n'est pas seulement le grand jour qui adviendra à la consommation des siècles. Il y a bien sûr ce grand jour de la résurrection générale à la consommation des siècles. Mais il faut nous souvenir que nous en avons les arts dès cette vie. Lorsque, par exemple, nous confessons nos péchés, le Christ nous guérit, nous apporte la guérison, le pardon que le Christ nous donne, ça s'assimile à une guérison. Le Christ qui nous guérit de nos maladies spirituelles, parce que nos passions sont des maladies spirituelles. À l'origine, l'homme a été créé avec des énergies, mais par le péché, ces énergies ont été données par Dieu à l'homme pour qu'il se tourne, qu'il marche vers lui, eh bien, ces énergies se sont inversées en passion que l'homme idolâtre. Et donc, le Christ, il nous apporte la guérison des maladies spirituelles que nous procurent ces passions. Pourquoi ? Parce qu'il est le divin thaumaturge. Et comme divin thaumaturge, il nous offre la guérison de ces maladies spirituelles. Et ces guérisons, pour nous, ce sont aussi de véritables relèvements, dans la mesure, bien sûr, où le péché est signe de mort spirituelle. L'homme pécheur est comme mort spirituellement. Et le thaumaturge céleste, eh bien, il nous guérit nous ressuscite, nous communique à nouveau la vie, mais la vie incorruptible cette fois, dans l'exacte mesure où nous nous conformons à la médecine spirituelle qu'il nous prescrit. Et c'est là tout l'art ascétique de la tradition de l'Église orthodoxe depuis les pères d'Égypte, depuis l'enseignement du Christ transmis par les apôtres, mais donc nous en avons des témoignages tout au long des siècles, les pères d'Égypte et leurs successeurs, pour ne pas aller plus loin dans ce domaine, jusque aux pères spirituels d'aujourd'hui qui nous portent cette médecine spirituelle du Christ et nous conduisent, nous mènent vers la guérison de l'âme et du corps. Les impies, pour reprendre l'image de la poussière, les impies, nous dit saint Ambroise de Milan dans son commentaire sur le premier psaume, sont poussière, et la poussière c'est l'impiété. La puissance des impies est semblable à la poussière. Elle produit l'obscurité et ne peut donner le salut. Aussitôt que le vent commence à souffler, il la soulève, la répand, la dissipe. Elle trouble l'air, dénude le sol, elle est rejetée comme la poussière, elle se dissipe comme la fumée et se fond comme la cire. Donc la puissance des impies, finalement, n'est que qu'apparente, mais qu'apparente, n'est que pour un temps, parce que l'impie ne travaille que pour des œuvres de mort. Et cette citation de saint Ambroise de Milan vient fort à propos, justement, pour commenter ce verset du psaume. Autant dire donc que sans le Christ, tout est désordre, désunion, inconsistance, ruine, absence de direction, absence de but, absence de terme. Ce qui veut dire que l'homme perd complètement son orientation et ce pourquoi il a été créé. Car l'homme a été créé en vue de Dieu, en vue d'entrer dans un vis-à-vis avec son Seigneur, en vue d'entrer dans l'intimité de son Seigneur. Et l'impiété, c'est l'attitude exactement inverse. Ils ne seront pas du nombre des justes qui jugeront avec le Christ, comme le dit saint Matthieu dans son évangile, verset qui se rapporte donc aux apôtres, au chapitre 19, verset 28. En vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et lorsque le verset 5 du psaume dit que les impies ne se lèveront pas au jugement, cela ne signifie-t-il pas, je pose la question, cela ne signifie-t-il pas qu'ils ont déjà prononcé sur eux-mêmes le jugement dès cette vie? On peut répondre de manière positive. Parce que saint Jean nous dit « Qui ne croit point est déjà jugé. » Qui ne croit point est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est un verset tiré du troisième chapitre de Jean, les versets 18 à 19. Alors certes, bien sûr, au moment de la résurrection universelle, la résurrection générale, celle qui interviendra à la consommation des siècles, lorsque le Seigneur glorieux viendra juger le monde, parce que je rappelle qu'il y a deux venues du Seigneur, il y a la première qui est le Seigneur est venu dans l'abaissement, et la seconde venue, le second et glorieux nouvel avènement, comme nous le nommons dans la liturgie, le Seigneur vient dans la gloire pour juger le monde. Et à ce moment-là, les justes et les réprouvés ressusciteront. Mais ces derniers, les réprouvés, ne ressusciteront pas avec les justes, parce qu'ils seront séparés des justes, comme le Seigneur sépare les boucs des brebis. Verset 6. Car le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des impies va à la perdition. Donc ici, que veut dire le verbe connaître ? Est-ce que le verbe connaître qui est employé dans ce verset 6 fait uniquement référence ou seulement référence à l'omniscience de Dieu ? Dieu est omniscient, donc il connaît tout. Au sens biblique, la connaissance dont il est question résulte en général d'un choix, d'un discernement, d'un amour, comme le dit le prophète Amos au chapitre 3, verset 2. « Je n'ai connu que vous, toutes les familles, que vous de toutes les familles de la terre. » Donc il parle d'Israël, son élu. « Je n'ai connu que vous, de toutes les familles de la terre. » D'où, toujours dans l'Écriture sainte, la thématique nuptiale en est le symbole le plus éminent. Dieu connaît ceux qui s'unissent à lui. Il les connaît, ceux qui s'unissent à lui par l'obéissance à sa volonté, par la pratique des cinq commandements du Christ, par la méditation de sa loi jour et nuit, pour reprendre le verset 2 du psaume, par l'intimité grandissante avec lui dans la prière. Parce que cette connaissance, elle a quelque chose à voir avec l'intimité qui unit l'homme à Dieu. À l'inverse, il dit aux pécheurs et aux impies, « Je ne vous connais pas », comme le dit le Christ aux vierges folles dans la parabole de l'Évangile. Et, bien sûr, ce « je ne vous connais pas » ne signifie nullement, compte tenu toujours de l'omniscience de Dieu, que Dieu ignore quelque chose ou quelqu'un. Mais ce « je ne vous connais pas », c'est une manière de leur dire « Vous êtes des fils de la perdition. Je vous rejette. Je vous ignore, puisque vous m'avez ignoré. Je ne partage aucune intimité avec vous, puisque vous avez choisi, en tant que créature libre, la voie de l'abîme et de la mort. Souvenons-nous que, devant tout homme, sont placées les deux voies, celle de la vie et de la mort. Et souvenons-nous que l'homme est créé libre. Il est créé libre. Il n'est pas un automate, il est une créature libre qui est appelée à rencontrer son Seigneur dans un vis-à-vis amoureux. Et c'est donc par libre choix que l'impie a choisi l'abîme et la mort. Donc, c'est pour ça que Dieu dit « Je ne vous connais pas ». Tout le premier psaume, qui par ailleurs ne porte pas de titre, pourrait, par voie de conséquence, s'appeler le psaume des deux voix. Je lui ai donné ce nom en commençant mon propos, mais je crois que Après ces quelques explications, on peut être assuré que lui donner ce titre n'est pas un titre usurpé. Cette notion des deux voies, c'est un thème fondamental dans l'Écriture sainte et dans la tradition des Pères. Et à ce titre, le premier psaume, on peut dire qu'il est ce que le prologue de l'Évangile de saint Jean est. Il est en quelque sorte le prologue du psautier, l'ouverture du psautier. Saint Basile le Grand, dans son homélie sur le premier psaume, nomme ce psaume le fondement et la base de tous les autres psaumes. Un peu comme le prologue de l'évangile de Jean est le fondement et la base de tout l'évangile de Jean. Et il ajoute « Ce que sont les fondations pour une maison que l'on construit, ce qu'est la carène pour le corps d'un vaisseau, ce qu'est le cœur dans le corps d'un être animé, ce psaume si court l'est, à mon avis, pour tous les autres psaumes qui suivent. » Saint Grégoire de Nice, un autre père cappadocien, nous parle de lui, comme étant une introduction, le psaume 1 donc, comme étant une introduction à la philosophie spirituelle. Et là, bien sûr, il convient de ne pas se méprendre, ce n'est pas de philosophie spéculative dont il est question lorsque Saint Grégoire de Nice parle de philosophie spirituelle. C'est de la philosophie du Christ, terme qui est souvent employé par les pères s'agissant de l'enseignement des mystères du Christ et du chemin de déification qui nous est ouvert par lui. La tradition juive, quant à elle, nomme le livre des psaumes Sefer Tehillim, donc le livre des louanges. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Ce dont le psaume premier est la clé de ce recueil aux louanges multiformes, où s'expriment tous les états de l'âme humaine, livre qui est au cœur de la prière de l'Église. Et saint Paul nous rappelle combien il est important de connaître les psaumes. J'ajouterai combien il est important de les mémoriser. Vous savez que dans la tradition monastique, cette notion de mémorisation des psaumes, eh bien, elle est présente depuis les origines jusqu'à nos jours. Il m'est arrivé de rencontrer un vieux starets au Mont Athos qui connaissait le psautier par cœur. Voilà ce que dit saint Paul dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16, « Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. » Remarquons encore que ce psaume d'ouverture, ce psaume qui nous est décrit dans la tradition comme étant la clé du psautier, eh bien, il s'ouvre sur deux mots, « bienheureux l'homme ». Et c'est donc, ce psaume s'ouvre sur une béatitude. « Bienheureux l'homme qui ne s'en est pas allé au conseil des impies. » « Bienheureux l'homme ». C'est une béatitude, et ceci n'est pas fortuit si l'on veut bien y réfléchir. Parce qu'on y respire dans ce psaume comme un parfum de paradis. Car, comme le dit le père Placide, « Dans le cœur, je cite, « dans le cœur du juste, qui médite constamment les Écritures, jaillit l'eau vive de l'Esprit, qui lui fait goûter les prémices de la vie éternelle et l'introduit par anticipation dans le paradis véritable. Cette eau vive de l'esprit qui jaillit du cœur du juste, comme l'eau vive jaillit du côté droit percé du Christ sur la croix. Alors, ces antithèses qui parcourent tout le psaume, cette opposition véritablement radicale entre deux types d'hommes, les descriptions symboliques qui s'attachent à ces deux types d'hommes, placent, comme nous l'avons vu, la question des deux voies au cœur de ce psaume, prologue du psautier. Et nous avons vu que c'est un... Nous savons, nous en avons une petite idée avec ce psaume, mais nous savons que c'est un psaume, c'est un thème fondamental dans toute l'écriture sainte et les écrits patristiques. Par exemple, la Didaké, qui est un des tout premiers textes de la littérature chrétienne, un texte qui est contemporain du Nouveau Testament, s'ouvre justement sur ce rappel des deux voies, celle de la vie ou celle de la mort. Et quand le verset 6 nous dit « Le Seigneur connaît », c'est sa promesse de salut qui est derrière la béatitude qui ouvre le premier verset. Et ce parfum de paradis dont je viens de parler, c'est aussi la venue de l'heure messianique, car avec la venue du Christ Messie, c'est la venue du royaume qui est au milieu de nous. Alors, je terminerai en insistant sur cette notion de mémorisation. Vous savez, cette méditation de l'Écriture, pour que cette méditation de l'Écriture soit une véritable manducation spirituelle, il faut, vous savez, le prophète est invité à manger le rouleau des Écritures, eh bien, et il a dans sa bouche comme un parfum de miel en mangeant ce rouleau, eh bien, cette manducation, elle est nécessaire, parce que l'Écriture est une nourriture de vie. Et au cœur de l'Écriture, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la personne du Christ. Et la personne du Christ qui se donne en nourriture, qui est cette nourriture qui est une manne céleste. Qui est une manne céleste inépuisable. Et cette manducation, cet acte de manducation qui nous fait entrer en intimité avec l'Écriture, elle passe par la mémorisation. Méditation jour et nuit, c'est ça. Cette mémorisation, ça s'apparente à cette méditation jour et nuit dont nous parle le premier verset de ce psaume. Et par cette mémorisation, nous entrons vraiment dans l'intimité avec la parole. Et cette mémorisation se fait prière. Elle se fait prière. Parce qu'il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans la prière. Et nous prions Dieu avec les paroles qu'il nous a apprises. Nous prions Dieu avec sa parole elle-même. D'où l'importance, je crois, bien sûr, d'accéder à la compréhension de ces psaumes, à accéder par l'ouverture de l'âme et du cœur à l'action du Saint-Esprit, à l'intelligence de l'écriture, et en particulier de ces psaumes. Mais d'abord, l'acte premier doit être cet acte de méditation, de prière, cet acte de mémorisation, pour que finalement nous ne fassions qu'un avec ces paroles. D'où l'utilité, je pense, d'apprendre par cœur, si ce n'est tout le psautier, au moins certains psaumes. Nous devons connaître, par exemple, ce premier psaume, le méditer, le faire monter dans notre cœur et sur nos lèvres le plus souvent possible. Le psaume 50 aussi, le psaume de confession, et bien d'autres encore. Et c'est de cette manière que nous grandirons dans l'intimité avec la parole. Bien sûr, ce n'est pas exclusif. Il y a aussi les hymnes que nous trouvons dans le Nouveau Testament, les grandes hymnes christologiques que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Il y a aussi le prologue de l'évangile de Jean. Vraiment, cette mémorisation, c'est une voie royale pour entrer dans l'intimité avec le Seigneur et pour purifier, pour protéger notre âme de toutes les tentations de l'impiété et du péché. Voilà, je vous remercie. Et nous nous retrouvons la prochaine fois.